Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
Usted está escuchando Terre d'Alliance.
Sur France Inter.
France Inter.
Con Alexandre Héron.
Chaque fois que je viens en France, par exemple, alors moi je retrouve cette atmosphère et cette ambiance amicale, quoi. Il y a encore cette amitié-là, le fait d'être argentin. Oh, salut, comment vas-tu? Alors, on est des frères, quoi. Voilà pourquoi que l'Alliance française joue ce rôle-là de lien.
Et oui, comme le suggère Diego Chautreau, le directeur d'une des quatre alliances françaises de Buenos Aires, nous allons plonger, lors de cette cinquième étape de notre voyage planétaire francophone et francophile, au sein d'une longue amitié, voire d'une réelle complicité entre deux pays, la France et l'Argentine. Cette halte de deux jours à Buenos Aires était incontournable. Buenos Aires, la plus européenne des capitales latino-américaines, affiche un appétit de vivre et s'offre un nouveau visage depuis quelques années entre architecture high-tech, design et tango. Tango, que l'on dansera demain à la même heure, tous ensemble, c'est promis. Buenos Aires, cette mégapole démesurée qui s'étale sur 200 km² et qui compte aujourd'hui plus de 15 millions d'habitants, est un théâtre fascinant que nous allons approcher toute cette heure en compagnie des acteurs de l'Alliance.
Terre d'Alliance, Alexandre Héron, sur France Inter.
L'Amérique latine est une terre d'alliance, on va dire une terre d'élection de l'Alliance française par excellence. On souligne toujours, au siège de notre bel outil de diplomatie culturelle, que la région a été étroitement liée à l'institution depuis ses origines. Les affinités latines, l'admiration pour le goût français, l'attraction exercée par Paris dont on suivait les modes, l'expliquent largement. On sent que la France demeure la porte d'entrée vers l'Europe face à l'omniprésence nord-américaine. Pour commencer ce voyage, nous avions rendez-vous avec le président argentin de l'Alliance française de Buenos Aires, qui est aussi directeur d'un des plus grands cabinets d'avocats international qui porte son nom, Maximo Momchil, décoré de la Légion d'honneur, vice-président de la Chambre de commerce franco-argentine, de la Fondation Renault, et même membre du conseil d'administration de la Fondation de l'Alliance française à Paris. Notre hôte distingué représente l'élite économique et la bonne société toujours aux commandes de ce pays. Où est-ce que vous avez voulu me donner rendez-vous, Maximo Momchil?
Dans le Círculo de Armas. C'est un club très fermé, très, très discret et très chic de Buenos Aires.
Alors c'est pour ça que le monsieur qui est derrière nous, qui observe, qui rentre dans ce club et qui s'est tout de suite rendu compte que je n'étais pas membre, a presque une attaque cardiaque en voyant que je n'avais pas de cravate.
Oui, ici on doit entrer avec cravate pour aller à la salle de manger ou pour aller au living.
Tout ça sonne très britannique. Vous me permettez cette petite remarque?
Vous regarderez maintenant, c'est très britannique, le club.
Et alors, on n'a pas l'équivalent, nous, de quelque chose d'aussi chic et célèbre?
Oui, le Jockey Club de Paris, c'est aussi chic que celle-ci. Et moi, quand je vais à Paris, je dors, j'utilise les habitations du Jockey Club, les logements du Jockey Club. Là, à la rue... C'est avenue Matignon et la rue Pasteur.
Bon, alors je me débarrasse aussi du sac, parce qu'on ne tient pas à ce que le sac rentre à l'intérieur, ça fait désordre, tout ça. Et alors le journal non plus. Alors le journal, ça m'a permis quand même, en ouvrant La Nation aujourd'hui, La Nation, ça m'a permis, Maximo Momchil, de voir que, en gros titre, on nous annonce que en avril, le gaz, l'eau et aussi le transport... que ce soit les bus ou les trains, augmentent, mais de manière drastique.
Oui, ils vont augmenter de manière drastique parce qu'ils n'augmentent pas depuis 2 ans et demi à peu près. Et l'eau, beaucoup plus que ça. Et avec l'inflation qui a en l'Argentine, les prix sont hors complètement en relation avec les coûts. Donc, les gouvernements doivent faire l'ajustement pour réduire le déficit fiscal, que c'est à peu près le 7% de produits bruts. Mais ils veulent, avec lentement, le réduire à 1%.
Au risque d'avoir une contestation sociale, les gens qui descendent dans la rue, on connaît les bruits de casseroles en Argentine.
Mucha gente concentrada.
Sûrement, mais on doit prendre les mesures.
Concentration, aquí en la Plaza de Mayo. Se cantó el himno nacional argentino.
Je laisse donc La Nation et son cortège de mauvaises nouvelles à l'entrée de notre club très sélect.
venía de la Casa Rosada, en realidad, la casa está colmada. Manifestantes en Acoite y Rivadavia.
Lors de mon arrivée en mars dernier, la capitale argentine se prenait de plein fouet l'annonce des premières mesures de réajustement économique sévères prises par le tout nouveau président élu en décembre dernier, le néolibéral Mauricio Macri. Des mesures pour certains, comme Máximo Bonnechil, prises avec courage, accueillies par beaucoup d'autres Argentins avec rage et désespoir. L'Argentine s'apprête, cela est visible, à passer de nouveaux moments très douloureux. Le spectre et la peur de revivre une crise aussi profonde et terrible que celle de 2001 est dans tous les esprits. Le rêve porté par une vision péroniste du pays semble aujourd'hui inopérant après plus de 10 années de kirchnerisme qui se sont mal terminées. Mais on le sait, le cadre de l'Alliance française n'est pas celui de l'exposition de combats et de jugements politiques. C'est même inscrit dans sa charte qu'il est interdit d'en faire état. Alors n'oublions pas, chers auditeurs, que nous sommes ici pour visiter ces murs où l'enseignement de notre langue est toujours et encore l'objet de la mission centrale, et qui plus est, avec les nouveaux outils pédagogiques qui prennent parfois un visage surprenant.
Comment sortir de la crise agricole ? Vous découvrirez dans ce journal les vrais revenus des éleveurs.
Ça ? Diego, c'est oui. Un instrument de travail pour vous d'écouter le journal de TF1 ?
Oui, surtout parce qu'il y a de matières différentes, il y a des sujets différents. La langue, le lexique qui est utilisé à la télé nous aide à construire des phrases, à travailler en résumé, à voir quelles sont les différences culturelles aussi entre la France et l'Argentine, à voir parfois des problématiques que vous avez en France et que nous n'avons pas forcément.
Et vous n'avez pas eu l'idée d'utiliser plutôt le journal télévisé du service public, pour ne pas le nommer France 2 ou France 3 ?
Mais je crois que le journal télévisé de TF1 est mieux structuré, disons pour nous, parce que c'est une structure assez similaire à notre télévision.
Ah, c'est plus simple, vous voulez dire.
C'est plus simple, voilà.
Oui, c'est intéressant, ça. Aujourd'hui, ici, à l'Alliance française de Buenos Aires, je suis au milieu d'une salle, c'est assez impressionnant parce que vous avez 16 élèves, vous avez toujours autant d'élèves ?
Normalement, il y en a 21 dans ce cours.
Wow. D'âges différents ?
Tout à fait, de métiers différents, des vies différentes, ça c'est intéressant aussi.
Oui, il y a des motivations différentes aussi ?
Tout à fait. Par exemple, le cas de Léonard qui veut voyager au Québec avec sa famille et qui étudie la langue, même si au début, il avait dit non, moi je suis ingénieur, je ne comprends rien des langues. Alors il dit je ne comprends pas ce que c'est un substantif, un verbe, un adjectif. Mais pourtant, disons après 2 ans, il peut bien parler, il peut exprimer sa motivation. Ou par exemple le cas d'Adriana qui travaille à l'ambassade d'Espagne dans les secteurs culturels, qui s'intéresse beaucoup à la culture. Elle a même déjà eu l'occasion de voyager, de vivre quelques temps en France. Et je crois que nous avons tous des motivations différentes.
Simonin, si ce parquet pouvait nous parler, pour l'instant il grince, mais il dit des choses sur l'endroit où nous nous trouvons.
Il a connu les pieds de, dans mon avis, une bonne vingtaine de directeurs d'alliances différents. Et il est authentique ce parquet. Je crois que c'est un parquet qui date du début du XXe siècle, comme la maison.
Et l'alliance ? Est plus vieille que cette maison qui est le siège ici, avenue Cordoba, à Buenos Aires. Et plus vieille encore, c'est-à-dire que l'Alliance française de Buenos Aires, d'Argentine, pardon, a été créée presque simultanément à celle de Paris, très peu de temps après.
Et oui, bien sûr. 10 ans après la création du mouvement Alliance française à Paris, en 1883, est née l'Alliance française de Buenos Aires, donc en 1893, un 12 juin. À l'hôtel Club Français, très exactement. Et dès lors, l'Alliance a eu une activité continue, quels que soient les régimes politiques, j'allais dire, puisqu'elle a été aussi un havre de, pour les intellectuels sous la dictature, sous les dictatures militaires, par exemple. C'était un lieu de liberté qui était très apprécié des artistes, des intellectuels porteños.
Et alors, quand on arrive dans ces murs, ici, de l'avenue Cordoba, dans le siège de l'Alliance française de Buenos Aires, qui fédère, en quelque sorte, et qui coordonne 53 autres alliances françaises dans ce pays qui fait presque 6 fois la France, il ne faut pas l'oublier, on peut aussi s'intéresser donc à la personnalité de celui qui le dirige. Bruno Simonin, vous prenez ça, aujourd'hui, puisque c'est votre dernier poste, on peut le dire, comme une sorte de responsabilité et à la fois d'honneur et de cadeau.
Oui, bien sûr, c'est un beau cadeau qui m'est fait au crépuscule de ma vie professionnelle, on va dire, parce que j'ai commencé en alliance il y a très très longtemps, au début des années 80, j'ai dû diriger 8 ou 10 alliances françaises, et donc pour moi c'est vraiment fantastique de travailler dans cette alliance française de Buenos Aires qui représente quelque chose d'assez exceptionnel. C'est une alliance infiniment culturelle où se passe toujours quelque chose, très bien organisée, avec un excellent président, une équipe de direction formidable. Et surtout, c'est une alliance française qui est aimée des habitants de cette ville. Et j'ai la chance aussi de pouvoir m'occuper d'un formidable réseau d'alliances françaises, puisque nous sommes présents dans 53 villes et que mon rôle, c'est aussi de coordonner les actions de 53 alliances françaises dans le pays. C'est vraiment impeccable, quoi. Que demander de plus à la vie.
Avant de manger, Maximo Bomchil, ici dans ce club privé, on peut évoquer, dans ce décor lui aussi un peu suranné, l'histoire de l'Alliance française que vous présidez. C'est une des pionnières. Il y a un peu de fierté. Comment on explique toute cette empreinte francophone? Comment on explique qu'à Buenos Aires se soit fondée, dès la création de l'Alliance française, cette alliance?
Parce que France a eu une influence très importante sur les élites argentines dans le 19e siècle et dans, je dirais, les premières 50 années de le 20e siècle. L'élite argentine, le facteur de pouvoir en Argentine, ont été formés en France, on a lu les auteurs français et à cause de ça, il y a une énorme influence de la culture française en Argentine. Et on considère pas qu'une personne est suffisamment éduquée s'il peut pas parler français. Nous avons fait des enquêtes en l'Alliance, pourquoi les élèves étudient français, et c'est pas pour une question de travail ou pour émigrer, sinon que c'est pour la formation personnelle.
La France, c'est qui? La France, c'est quoi?
La France est un lieu où on vit libre.
Charles de Gaulle.
Quand je pense à la France,
Molière.
Je pense à l'histoire de France, de la monarchie, et tout ça que la monarchie et tous les rois ont laissé à la France, et pour moi, est très important.
Ah, Hollande.
Je pense que la France, c'est le pays de la révolution, de la lumière.
Patrick Bruel.
La révolution industrielle, Napoléon.
Serge Gainsbourg.
Les droits de l'homme.
Debussy.
Laïcité.
Auguste Comte.
Chateaubriand.
Mon grand-père était français. Et quand j'étais petit, mon père chantait les Marseillaises pour moi tout le temps.
Quelle horreur!
Oui, oui.
Mais il n'y a pas des chansons plus douces?
Oui.
Mais vous vous en souvenez des paroles de la Marseillaise?
Oui.
Alors ça donne quoi?
Non, je ne chante pas. Non.
Arrivait contre nous de la tyrannie, sanglant élevé.
Ah, donc vous êtes comme tous les Français, vous ne connaissez pas plus loin.
Oui, c'est ça. Pardon.
Thank you.
cuento un secreto y no digas nada. Lo guardo en el fondo de mi corazón. Es una sonrisa cada madrugada. Va más allá de la razón. Es mi alma, mi cuerpo, mis manos, mis alas, mi gloria o mi perdición. Jardines ocultos, risas delirantes en el laberinto de mi condición. Vaga mi secreto por mares errantes y me lleva la ilusión. Salgo a correr por la ciudad y no veo a nadie como yo. Vos aceptas esta verdad, por eso soy.
Écoutez Terre d'Alliance.
Usted está escuchando Terre d'Alliance en Buenos Aires, Argentina.
Sur France Inter.
Sobre France Inter.
Avec Alexandre Hérault.
Con Alexandre Hérault.
Et nous allons maintenant faire résonner dans vos transistors, pour continuer cette balade francophone et francophile, d'autres hymnes que celui de Rouget de Lu tout à l'heure, avant cette Plaza Francia de Catherine Ringer dans l'une des salles de classe de l'Alliance. D'autres mélodies portant d'autres rêves, mais soulignant aussi d'une certaine manière le combat pour la fraternité et porteur d'une forme d'universalité. Vous allez comprendre ce que je suis en train d'évoquer en rencontrant Walter Farias, ce débonnaire et sympathique fils de l'Alliance française, Porteño de naissance, Porteño dans l'âme, représentant parfait d'ailleurs de ceux qui ici, et ils sont nombreux à le pratiquer, ce sport national, aiment être fiers de sa ville. Et vous allez voir que cela se conjugue avec un autre sport, emblème de la nation, rencontre. Walter Farias, la résonance de nos pas sur le marbre nous laisse imaginer évidemment la splendeur du lieu. C'est un lieu assez imposant, l'Alliance française ici, le siège de la rue Cordoba. Vous avez des souvenirs d'enfance ici?
Oui, en fait, le bâtiment a beaucoup changé depuis les années 78. Je suis rentré à l'Alliance.
Ah oui, c'est ça.
À l'âge de 14 ans. Ça a beaucoup changé, hein, une grande entrée en fer. Et maintenant, vous voyez, c'est moderne, c'est classe.
Vous, quand vous êtes rentré à 14 ans, Walter, c'était quoi? C'était pour apprendre le français?
Non, c'était pour...
Comment ça, non?
Pour travailler, incroyable.
Ah oui,
oui, je suis rentré comme un garçon des courses. À l'époque, j'avais décidé d'abandonner mes études, question de, je sais pas, d'adolescent qui ne voulait plus étudier. Et finalement, je suis rentré à l'Alliance. Après, bien sûr, je continuais toutes mes études, mais en travaillant à l'Alliance. Toute une expérience.
Garçon de course, ça veut dire qu'on vous chargeait de tous les plis, les courriers, les...
Voilà, tout ça. Il y a pas ça aussi, les photocopies. Les années 78, 79, il y avait 12 000 élèves. C'était la folie. Hein. Maintenant, il y a 6 500, 7 000.
Encore,
à l'époque, c'était la folie. Ouais, ouais, ouais. Beaucoup de travail pour le mois de novembre, pour moi, je me souviens. mais non, intéressant. C'était très... Mon premier et unique travail, c'était... C'est fou, hein. Quand je parle de mon histoire à l'Alliance, personne ne peut pas le croire. Hein.
C'est votre seul employeur.
Oui, je viens de fêter mes 38 ans à l'Alliance.
Ça ne se voit pas. Et puis, et aujourd'hui, vous êtes directeur d'une des quatre alliances, finalement, de Buenos Aires, celle du quartier Palermo, là-haut.
Oui, une des plus importantes, hein, avec 1000 élèves dans une alliance de quartier. Oui, je suis très content. Ça fait 12 ans déjà que je suis directeur.
Et c'est vers quelque chose de bon qui appartient à ce qu'on appelle l'idiosyncrasie de l'homme, justement argentin, et particulièrement ici à Buenos Aires. C'est vers un lieu de mémoire aussi, dans un autre quartier, un quartier populaire, un lieu incontournable que vous allez nous emmener. Allez, on le dévoile.
Oui, on va aller vers La Boca.
Allez. Alors La Boca, La Boca. Donc on ouvre la porte de l'Alliance.
Évidemment, ce qui nous accueille, c'est un peu le trafic encombré. Et la Boca, par rapport à là où on se trouve, c'est où ?
Et au sud, hein, au sud de la ville.
On va vers le port.
Oui, voilà, c'est à côté du port, là. C'est un quartier très, très populaire, hein, bien sûr.
Et vous vous rendez compte que peut-être ce mot-là, Boca, pour l'instant, ne parlait pas aux gens. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas encore où on va.
Non,
pour certains.
On va laisser le mystère.
Ah oui, vous croyez ? Non, allez.
Oui, là, il y a le club le plus populaire de l'Argentine. On va le visiter.
Donc il s'agit de foot, forcément,
oui.
Fatalement.
Oui, fatalement. Le plus populaire des sports en Argentine, c'est le foot. Et les clubs les plus populaires, c'est Boca Juniors. Aucune doute.
Hola. Ça va, donde vamos ?
Hola.
Non, non.
Ah, ah. C'est la cancha de Boca.
Peut-être qu'il... Les supporters, finalement, notre chauffeur de taxi de l'autre équipe.
Peut-être.
De quel cuadro sos ?
San Lorenzo.
Ah non.
En fait, les supporters de San Lorenzo, c'est un des 7 grandes équipes de l'Argentine.
San Lorenzo, quoi.
Donc c'est San Lorenzo.
San Lorenzo, c'est mieux, il dit.
On arrive bientôt. Évidemment, la première chose que je vois, Walter Farias, en descendant du taxi, c'est Maradona qui nous accueille sur un mural de cette boutique qui vend tous les t-shirts pour les supporters. La Boca, c'est jaune et bleu.
Jaune et bleu.
Et donc tout le stade de la Bombonera qui est gigantesque là, un peu vieillissant d'ailleurs, c'est sympathique. Quand je dis sympathique, je dis ça parce que ça le fait devenir quelque chose d'inscrit dans l'histoire, presque de patrimoine. Quoi. C'est pas flambant neuf, il est en jaune et bleu aussi.
Oui, c'est un vieux, vraiment un vieux stade.
Et le quartier alors, il ressemble à quoi ? À l'image un peu du stade finalement.
Oui, oui, très coloré. C'est vrai que c'est essentiellement à l'époque des Italiens qui arrivaient ici, qui s'installaient à la Boca.
Et on dit qu'ici, à Buenos Aires, c'est une ville d'Italiens qui parlent mal espagnol.
Ah oui, voilà. D'Italien et d'espagnol aussi, mais ce quartier, essentiellement, la Boca, c'est plutôt italien, oui, partout.
Donc un quartier qui condense aussi toutes les difficultés sociales, mais vous avez un rôle, Walter Farias, en tant que sociétaire de ce club, c'est peut-être aussi d'être près de cette population.
Oui, ça c'est l'intention qu'a le club, de donner au moins les minimums moyens aux gens du quartier qui n'ont pas la possibilité d'étudier, de se former. Je pense que c'est bien comme mission qu'a le club, ce côté social, non ?
La Bombonera se visite, il paraît. Il y a même un musée ici.
Voilà, on est à côté du musée, justement.
Il y a quoi dans ce musée ?
Ici, il y a tout ce qui est l'histoire du club, des joueurs qui ont passé par le club, des images, des coupes que l'équipe a gagnées. Il y a des sculptures des grands idoles du club, comme Maradona, Riquelme et d'autres.
Bon dia.
Hola, bon dia. Bonjour. Pardon.
Bonjour.
Bonjour, ok.
Ah, et voilà la reine. Et là, il nous manque évidemment la clameur.
Oui, ça.
Il n'y a rien de plus
c'est
frustrant.
Impressionnant.
Et la Bombonera peut contenir combien de personnes ?
On est tout près. Et 55 000 spectateurs. Mais c'est petit. Et c'est pour la quantité de supporters qui a Boca, ça ne suffit pas. Non, ça suffit pas. Bon, on aime la Bombonera. C'est notre maison. Le temple, on appelle le temple. De notre religion.
Walter Farias devant nous, le stade est vide évidemment. Il y a la machine à souvenirs qui s'emballe. Pour tous ceux qui sont là et qui ont assisté comme vous à énormément de matchs, peut-être à tous, le plus beau but, ce serait lequel qui vous viendrait en mémoire ?
Ce qui me vient tout de suite en mémoire, c'est un but de Maradona en 81, un but qui est marqué contre River. C'était la nuit, il pleuvait. C'est impressionnant, une nuit atroce, il pleuvait tout le temps, le terrain était horrible, mais Maradona quand même avec une technique magique.
Maradona se va Córdoba por la derecha solo, attention.
Il a reçu le ballon, il a fait passer deux adversaires qui dérapaient sur le terrain.
Ahí va el cambio buscando la atención. Lo dejó solo. Maradona solo arco, solo le va a pegar, golazo, le va a pegar, le pegó.
Et là il a marqué, C'était la folie, c'était la folie. On chantait comme que c'était le carnaval, c'était la fête. Maradona, le dieu, ouais, il a fait des choses extraordinaires. C'est le plus grand. Même si j'aime beaucoup Messi, je pense que c'est toujours Maradona qui gagne. Qui est en première.
Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, 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 tómbola.
France Inter, estamos escuchando Terre d'Alliance, Tierra de Alianzas, en Buenos Aires, Argentina. Un voyage planétaire au sein des Alliances Françaises, con Alexandre Hérault.
Fin de partie. Retour au bercail. Changement de décor, changement de quartier. On quitte la République à De la Boca. Et c'est comme ça que ses habitants et supporters le nomment, sans fausse modestie, ce quartier populaire que l'on déconseille de fréquenter à tous ceux qui en sont étrangers après la tombée du soir. On rejoint le siège de l'Alliance française, niché depuis 1928 dans le très huppé quartier de Retiro, dans cet immeuble anciennement propriété de la famille Castex, où le salon de réception luxueux du premier étage vient d'être rénové grâce à l'appui financier d'un partenaire, la Fondation Renault. Et non loin des ors de cette salle prestigieuse se trouve l'auditorium flambant neuf, servant de salle de projection et de salle de théâtre et de conférence, un lieu très prisé des porteños. Un bel outil aux mains de l'Alliance pour sa fonction de prescripteur d'événements et d'activités culturelles.
Qu'est-ce qu'on joue ce soir ?
Un film canadien qui s'appelle Félix et Meria.
Comme chaque soir
Oui, parce que c'est le cycle de ciné de la francophonie cette semaine. Merci. Oh là.
C'est plein.
Oui.
Monsieur le directeur, Bruno Simonin, on n'est pas peu fiers finalement de à chaque fois constater que l'auditorium est rempli.
On a beaucoup de chance avec le cinéma, on a un public très cinéphile et c'est vrai qu'on a souvent notre auditorium plein pour nos projections.
Derrière nous... l'une des dernières recrues, parce qu'ici aussi, le personnel change, il faut... J'ai remarqué un personnel assez jeune. Et là, on est avec Maxime Bonachet, là.
C'est une de nos dernières recrues, Maxime. C'est un bel exemple de double nationalité. Il est français de naissance, mais il vit à Buenos Aires depuis très très longtemps. Et vraiment, il a un parcours très intéressant. On a aussi beaucoup de stagiaires, services communication, services culturels. Et la jeunesse nous fait beaucoup de bien. On a besoin de la jeunesse pour être en pointe en ce qui concerne les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, etc. Et tous ces jeunes nous apportent beaucoup.
Et la tâche de Maxime est ici laquelle ?
Alors lui, il travaille en médiathèque parce que c'est un passionné de littérature.
Maxime, on se rend dans votre lieu de travail. Enfin, on est ici devant l'auditorium, mais on va vers l'un des endroits un peu névralgiques, qui est en bas, la médiathèque, et puis la bibliothèque superbe, qui est peut-être une des plus belles bibliothèques du réseau des Alliances françaises, non ?
Ouais, c'est une des plus belles, et en plus, on a le fonds qui est proposé, un des plus importants d'Amérique latine, en fonds français, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une quantité de livres assez importante. Ça tourne dans les 50 000 livres, je crois, si je ne dis pas de bêtises.
Et ce qui est marrant, c'est que ces deux, Maxime Bonachera, ces deux lieux, médiathèque et bibliothèque, qui riment, font aussi se pénétrer les univers.
Il y a vraiment deux espaces différents. Ici en bas, donc, c'est plus les bandes dessinées, l'art, les magazines, les CD. Alors qu'en haut, c'est plutôt tout de suite littérature, philosophie, psychologie, critique littéraire.
Ce qui est marrant, c'est que là, on parle dans la médiathèque de l'Alliance française de Buenos Aires, devant aussi la CD-Tech, et il y a tous les chanteurs qui sont présents, tous les musiciens français, de Serge Lama à Gainsbourg, en passant par Higelin, à Thierry-Claude François, celui-là, vous ne l'avez pas oublié, mais enfin, ils sont tous là, les Têtes-Raides, Pierre Perret, Edith Piaf, Sardou, tiens, vous ne l'avez pas oublié, celui-là. Et est-ce que y a Benjamin Biolay ?
Ouais. La première fois, il est venu à Buenos Aires pour un concert. Il est allé dans un bar qui s'appelle le Kiminovac et il a fait une chanson sur cet endroit. Alors je vais voir si je le trouve. Mais là, je crois qu'on l'a déjà prêté. Ouais, il est prêté le CD.
Mais par exemple, il est très populaire. Hein. Quand il vient ici à Buenos Aires, il joue dans une salle qui s'appelle Niceto. Il est très très populaire.
Il est complètement fanat de Buenos Aires.
Ouais. Il adore. Il paraît qu'il va au stade. Enfin ouais. Moi, on m'a raconté que c'était comme ça. Et ouais, il adore.
Terre d'Alliance, Alexandre Hérault sur France Inter.
Myriam Enada, c'est un endroit que vous connaissez bien ici à Buenos Aires. Pour cause, c'est l'Alliance française.
Oui, nous sommes au cœur de la francophonie à Buenos Aires.
Et ma foi, c'est un endroit que vous connaissez bien parce que vous vous êtes plusieurs fois produite ici.
Effectivement, j'ai même lancé mon disque ici et je vais souvent aux événements organisés par l'Alliance. Ce sont des amis, c'est la famille, quoi.
Là, il est 19h passé, c'est la projection d'un film, c'est un cycle de cinéma français qui affiche complet. Puis quand c'était vous, c'était pareil. Donc on est dans la situation où presque vous allez monter en scène, là. Hein.
Oui, alors je commence à avoir le trac, hein, voilà. Mais bon, un trac à la française, c'est-à-dire qu'on reste digne.
Et alors, s'il fallait revenir sur cette aventure qui vous a mené justement à nouveau à Buenos Aires, c'est-à-dire qu'au départ, la France était plutôt votre territoire.
Oui, je suis née en France et je suis française. J'ai découvert ça ici, en Argentine d'ailleurs.
Et vous étiez française ?
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que je me sens française depuis que je suis en Argentine.
Qu'est-ce qu'elle a pour elle, Buenos Aires, que vous ne retrouvez plus, que vous ne retrouvez pas à Paris?
Quand je suis arrivée, c'était le côté très désuet. Il y avait un air un petit peu vieille France des années 50, avec les petits cafés, les hommes en costume, mais très, très, très passé tout ça. Et puis maintenant,
alors, attendez, quand vous êtes arrivée, c'était quand?
C'était la première fois en 2003.
Ah, je pensais que c'était en 1929.
Oui, effectivement, je suis née en 1929, donc je suis arrivée au monde en 1929. Et c'était l'époque... J'étais la fille de Josephine Baker et d'un Argentin, donc Oscar Alemán, et voilà. Et donc, c'est Nana là qui parle, hein, c'est pas Myriam.
Alors voilà, il faut tout nous dévoiler. Ce projet, il est né en se construisant un personnage quand même.
Oui, tout à fait. Et ce personnage est né à Buenos Aires, effectivement. Et il a raconté plein d'histoires grâce aux gens, grâce au public, avec des échanges, des allers-retours entre le public et puis ce personnage. Et maintenant, il existe bel et bien. Et d'ailleurs, là, je reviens de France où d'un coup, je pensais qu'il allait pas exister puisqu'il est d'ici. Et en fait, je l'ai vu, il est encore réapparu sur scène. Donc, il est bien vivant.
Non seulement il est bien vivant, mais il est matérialisé. Il y a un premier CD qui est là, on peut se le procurer. Vous bataillez sec pour qu'il se présente sur toutes les scènes ici, parce qu'il n'y a pas qu'à l'Alliance française, dont nous trouvons actuellement que vous produisez, que Nana existe. Il y a tellement d'endroits qui peuvent l'accueillir que vous en avez choisi un qui s'appelle le Notorious. Ça vous va bien, ça?
Oui, c'est un club de jazz, on va dire ça comme ça, qui est une espèce de café-concert dans lequel j'ai commencé un 14 juillet. Et qui ensuite est devenue une tradition. Donc tous les 14 juillet, j'allais chanter à Notorious. Et puis ensuite, on a fait bien sûr d'autres concerts.
On y va ?
Ouais. Je suis la louve
d'automne qui se fane, qui s'étonne. Je suis la louve d'hiver qui se fâme, qui se perd. Je suis la louve printemps qui attend, qui attend. Je suis la louve d'été en mal de liberté. J'ai le love de love, love de love. It lies, lost and lost, lost, lost and lost, lost. Je suis la louve d'hiver qui se pâme, qui se perd. Je suis la louve printemps qui attend, qui attend. Je suis la louve d'été en mal de liberté. J'ai le love de louve, le love de louve. Oh, la nuit.
Terre d'Alliance, Alexandre Hérault sur France Inter.
Impossible d'oublier dans notre balade à Buenos Aires que la capitale fut le théâtre d'événements insupportables pendant ces deux derniers siècles d'histoire depuis son indépendance, célébrée le 9 juillet dernier. Mais dans ce pays où semble avoir été inventé le mot putsch, tellement ils se succédèrent au fil de son histoire mouvementée, il y eut une parenthèse particulièrement désenchantée et tragique, meurtrière et sanguinaire. Cette décennie de la dictature militaire du sinistre général Videla, dont on avait commémoré le 24 mars dernier, le 40e anniversaire du coup d'État, où il destitua le gouvernement d'Isabel Perón, la troisième femme de Juan Perón. Ce fut à travers les rues de la capitale argentine, une manifestation monstre et émouvante montrant à quel point cette histoire ne doit ni ne peut s'effacer de la mémoire. Une mémoire qui possède son lieu symbolique, au centre historique de la capitale, devant les grilles de la Maison Rose, du gouvernement et celle de l'archevêché, la fameuse Place de Mai, Plaza de Mayo. C'est là que pour la première fois en avril 1977, ont défilé, tournant autour d'elle, les célèbres mères et grands-mères des disparus estimés à plus de 30 000 et dont la doyenne a été reçue par François Hollande lors de sa visite d'État au printemps dernier. Une visite pendant laquelle il prit soin aussi de se rendre à une exposition au Parque de la Memoria, le Parc de la Mémoire, à côté du monument aux victimes du terrorisme d'État, érigé par le gouvernement de Cristina Kirchner. Une expo remarquable que nous ne pouvions pas ignorer, vous allez comprendre pourquoi, et que nous allions découvrir en compagnie du plus engagé des directeurs des alliances de Buenos Aires, le professeur de français et grand connaisseur d'art, Diego Chautreau.
Pourquoi on l'a construit là? C'est-à-dire, ça a été à l'époque du gouvernement de Néstor Kirchner. Alors déjà qu'il y a eu cette idée-là, etc. Et pendant tout le gouvernement de Cristina.
Cet endroit, on l'appelle, Diego Chautreau, le Parc de la Memoria.
Le Parc de la Memoria.
Et ça se trouve, ça longe le Rio del Plata.
Et justement, ça veut dire on l'a fait exprès parce que la plupart des disparus ont été... Alors jetés comme si de rien n'était, des avions, ça veut dire, dans le Rio. Alors tu vois, et là il y a bon alors tous les listings des gens qui sont disparus. Bon,
donc on voit leurs
donc
photos
on a,
ici.
Comment? Oui, alors on voit les photos et c'est des personnes naturellement alors qui ne sont plus, même pas les cadavres. Ça veut dire on n'a pas pu trouver les cadavres. C'est ce que les mamans et les grand-mères leur demandaient à chaque fois lorsqu'elles faisaient par exemple la ronde de Plaza de Mayo. Et elle demandait aux autorités, alors s'il vous plaît, au moins les cadavres, mais elle voulait savoir aussi où ils étaient. Mais bon, alors tu vois, il y a les 30 000 là, alors qu'ils sont disparus. Il y en a
et la seule date qui est inscrite au-dessous de leurs photos et de leurs noms, c'est la date de la disparition, la plupart
c'est
du
la
temps.
C'est la date de la disparition, c'est la date où vraiment ils ont été détenus, quoi. Alors en fait, alors parce qu'ils ont été arrêtés, ça veut dire à cette date-là. Depuis, ils ne sont plus revenus chez eux. Ça a été quelque chose de très dur.
Ici, c'est la réponse institutionnelle, finalement, avec ce parc de la mémoire où on est en train de pénétrer, au bord du Rio de la Plata, à la place de Mayo.
Ben, en quelque sorte, oui. Alors, c'est comme une espèce de dommage, disons, à ces mères-là et ces grand-mères, alors naturellement, qui ont lutté, qui continuent de lutter. Il y en a quelques-unes qui sont décédées, mais qui continuent de lutter alors tout au long de leur vie. Et même il y a des mamans, par exemple, qui dépassent les 90 ans et qui continuent de lutter et qui ont toujours l'espoir alors de retrouver leurs enfants.
Il y a une exposition ici qui est organisée par l'Institut français aussi, l'Alliance française, autour de ce qui a été justement l'appui des intellectuels français pendant cette période bien trouble de cette décennie 70-80.
Là, naturellement, parce que l'Alliance française joue un rôle très important comme un lien entre la France et l'Argentine. Pourquoi ? Parce qu'en définitive, ça veut dire que ceux qui ont pu échapper, disons, à la poursuite et à la persécution, plutôt, ça veut dire à l'heure des militaires, ont pu trouver en France, disons, comme une espèce d'asile. Alors, si tu acceptes le terme, non ? Cet asile-là qui a été comme une terre d'accueil.
Cette exposition s'appelle La Otra Orilla, Solidarité franco-argentine.
Orilla, ça peut être, disons, aux rives, aux berges. L'autre berge, tu vois. Et justement, là, il y a la solidarité franco-argentine. Alors, à l'époque de la dictature, c'est marqué là. Je me rappelle très bien, alors j'étais jeune en 76, et on nous appelait, c'est-à-dire les gens qui pensaient plutôt, qui avaient un penchant vers la gauche, on nous appelait les Rouges. Alors, les Rouges, parce que les militaires croyaient que nous étions communistes, quoi. Et eux, ils ne savaient même pas alors ce que c'était que le communisme.
Et on voit ces photos où, dans les rues de Paris, effectivement, défilaient main dans la main nos intellectuels, nos acteurs. Là, on voit Piccoli, on voit Montand avec Deneuve.
Oui, voilà.
Il pourrait y avoir Gavras, il pourrait y avoir Mitterrand aussi. Et tout ça nous permet, effectivement, ce titre est bien trouvé, hein, l'autre rive. On permet d'évoquer cette solidarité et ce refuge qu'a été Paris pour tout l'exil.
Et moi, je dis que non seulement Paris, toute la France a été un refuge. Alors, parce que moi, j'ai des amis aussi, alors qu'ils sont restés là-bas qui ont fait une famille et tout, ça veut dire à des Argentins ou des Argentines ou avec des Français ou des Françaises. Mais moi, je trouve quand même que quand on dit la terre d'accueil, ça a été vraiment une terre d'accueil. C'était le pays là, alors moi, je dirais en 76, jusqu'à 78, qui a accueilli le plus grand nombre d'Argentins, quoi. Et en plus, il y a cette amitié-là, là, parce qu'à chaque fois que je viens en France, par exemple, alors moi, je retrouve cette atmosphère et cette ambiance amicale, quoi. Alors, le fait d'être Argentin, oh, salut, comment vas-tu? Alors, on est des frères, quoi. Alors, en fait, voilà pourquoi que l'Alliance française joue ce rôle-là de lien. En espagnol, on dit vínculo. Et le vínculo, le lien alors établi entre la France et l'Argentine, est indissoluble. Tiens, Michel. Alors, on y va.
Ceci, c'est Simone, non ? Simone Signoret. Simone, non ?
Si Diego Chétreau, il y a Simone Signoret, il ne doit pas y avoir très loin Montand qui doit être là. On reconnaît.
Montand est là ?
Oui.
Montand est là. Montand est là, la Signoret aussi. Et Foucault. Regarde Michel Foucault. Catherine Deneuve. Donc, les gens qui ont manifesté là, bon, il y a des acteurs et des actrices que je ne peux pas. Là, il y a, toi, tu vois, il y a, à l'époque, c'était la présidente des maires de Place Aymar, ceux qui continuent de l'être. Alors, en fait, et Ebe de Bonafini, je ne savais pas qu'il y avait autant de, et qu'il y a eu autant d'acteurs, alors, qui ont tout à fait appuyé, disons, alors, l'idée du Nunca Más, n'est-ce pas ?
Et c'était très fort lors de 1978, du Mondial de football que votre pays a accueilli, où on a même débaptisé, vous voyez, la station argentine, elle était à l'époque débaptisée pour... Droits de l'homme, voilà.
Les droits de l'homme.
Vous aviez envie de me montrer quelque chose, Diego ?
Là, tu vois, les maires des Plaza et Machon. Et alors, il y a différentes manifestations depuis 1976. Sans cesse, hein, sans relâche. Et alors, tout le temps, il y a des manifestations tout le temps. Mais regarde qu'il y a une photo qui m'a beaucoup frappé. Alors, c'est justement la photo là où il y a des pancartes avec les yeux des bébés. Et alors, qui disent « Rendez-nous les enfants ». Los chicos, devuelvan los chicos, a los chicos. C'est-à-dire, rendez-nous les enfants. Pourquoi ? Parce que non seulement il y a eu les enfants de ces mères-là, mais il y a eu les enfants, alors des disparus, alors qui ont été vendus ou qui ont été donnés en adoption, n'est-ce pas ? Là, il y a eu...
Tous c'est des portraits magnifiques en noir et blanc, des portraits à taille humaine, de tous vos grands bannis, de tous vos grands exilés. Julio Cortázar commence la liste.
Il y en a quelques-uns qui sont revenus. Alors, Julio Cortázar est resté pour de bon en France.
Hugo Santiago.
Aussi un intellectuel. Mercedes Sosa.
Et on aurait pu en rajouter tant.
Il y a eu beaucoup d'exils, mais le pire des exils, ça a été 76.
C'est génial, dans votre bureau, Fernando Solanas, avant de rentrer, il y a l'affiche d'El Sud, le Sud. Et puis il y a une photo du tournage de Tango ou l'exil de Gardel, c'est ça dont j'ai envie de parler. Même si ça va vous faire plaisir, le chauffeur de taxi aurait bien aimé que vous soyez président de la République. Celui que je viens de prendre.
Bon, c'est une opinion.
ça a été une tentative.
Malheureusement minoritaire.
Je m'adresse tout de même à Fernando Solanas. Ici, tout le monde vous appelle Pino, au sénateur. Donc, ça fait longtemps que les Argentins, vos compatriotes, depuis que vous êtes revenus, savent, eux, que vous menez ici un combat politique, une carrière même politique, jusqu'à avoir présenté, je l'ai évoqué, deux fois votre candidature à la présidence de la République. La dernière fois, c'était contre Cristina Kirchner. Alors, malheureusement, vous n'avez pas été élu, opinion minoritaire. Mais... ce combat politique, finalement, a toujours été là, toujours ancré en vous.
Bon, peut-être c'est la conséquence d'une certaine cohérence tout au long de 40 ans. Pensez-vous que mes idées étaient déjà exprimées dans les années 68 avec mon premier film, L'air de Brassier.
Vous évoquiez ce combat politique qui a commencé il y a 40 ans, Fernando Solanas, Pino, vous aviez 40 ans. Il y a 40 ans, vous preniez le chemin de l'exil, puisqu'ici, il ne fallait plus que vous restiez, vous étiez menacé. Après, justement, votre premier long métrage de fiction. Il y a 40 ans, ce fut donc le choix de la France.
Oui, si. C'est évident. J'ai vécu une circonstance, tous ces 40 ans, on était des circonstances pas commodes pour moi en Argentine. Une série de dictatures qui a culminé avec l'arrivée d'une dictature génocide terrifiante, la dictature du général Videla. Et après, on a tombé dans une démocratie faible, hein. Dans l'année 83, a commencé la reconstruction de la démocratie en l'Argentine. On a gagné certaines batailles. Nous avançons. Non, la démocratie s'est affiancée en l'Argentine, mais il y a beaucoup de batailles qui encore manquent.
Et alors, vous vous rendez compte, Fernando Solanas, que vous faites partie de ces figures de l'exil argentin qui, à Paris, ont peuplé les faubourgs de la capitale jusqu'à créer des univers propres. On connaît le lieu qui s'appelait les trottoirs de Buenos Aires à Paris. Vous êtes beaucoup associé à cela. Comment vous auriez envie de me parler de cela aujourd'hui ?
Ça, c'est une histoire. C'est le grand duel, la grande tragédie de l'Argentine, était cet épisode. C'est difficile de généraliser. Hein. C'est le pays de l'Amérique du Sud qui allait plus loin dans le sujet des droits de l'homme. Et Et c'est la première fois que dans les continents, et peut-être la deuxième fois dans le monde, qui était capable de juger les responsables du génocide, avec un jugement exemplaire. Toute cette expérience tragique en Argentine nous a donné une grande quantité de savoirs et d'une véritable culture pour les droits de l'homme. Et le jugement des responsables du génocide, il est en cours.
La mémoire est non seulement vivante, mais elle se transmet de père en fils, jusqu'au point où votre fils, Juan, va lui-même aujourd'hui travailler sur ces histoires que vous avez connues, et en l'occurrence celles de ces bébés qui ont été volés, avec un scénario, puisque lui-même est devenu réalisateur comme vous l'avez été. C'est étonnant pour vous de voir que la nouvelle génération, cette génération, elle aussi s'intéresse à ce qui a été de près ce passé qui fut le vôtre.
Non. Il ne m'étonne pas, parce que les victimes de toutes ces situations aussi sont les fils des exilés. C'est un drame très particulier. Sont des petits-fils qui ont parti du pays sans vouloir partir, c'est pour décision de ses parents, dans des circonstances qu'ils ne comprenaient pas bien. Mon fils a étudié, il a fait toute l'école en France. La première, il était après dans le lycée Victor Hugo. Il a passé 20 ans de sa vie, ou 25 ans de sa vie à Paris. Et arrive un moment où les fils de l'exil sont là-bas, ici, là-bas. Alors c'est une situation c'est comme les deux moitiés d'une orange. Le type, il est cassé pour la moitié. Alors, sont les deux pays, citoyens de les deux pays, c'est comme ça. Bueno.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida.
Terre d'Alliance,
France Inter.
Tierra de Alianza.
C'est sur ce tribut à Violeta Parra, la chilienne par Mercedes Sosa, l'une des plus célèbres exilées argentines, que se termine notre première journée à Buenos Aires. Un voyage qui se prolongera demain, à la même heure, par une virée dans ces milongas en compagnie de tangueros et autour du dictionnaire passionné du tango que nous ouvrirons dans la bibliothèque de cette alliance pionnière dont nous remercions ici tout le personnel et particulièrement son délégué général Bruno Simonin ainsi que ses directeurs Walter Farias et Diego Chotreau. Mention spéciale à Ingrid Garnier pour son concours logistique. Un abrazo à mon amigo de Montevideo, Juan Solanas, et à son père que les Argentins n'ont pas eu jusqu'à aujourd'hui le courage de porter à la présidence. Dommage. Terre d'Alliance, c'est une petite équipe de rêve. Thierry Dupin à la programmation musicale, Léa Mino en community manager assisté de Rachel Chiche. Il y a une page Facebook et un compte Twitter à son nom. Et le hashtag Terre d'Alliance, vous pouvez aussi réécouter et télécharger cette émission sur le site internet franceinter.fr. Au mixage, c'était Kevin Pelot. Derrière la console de diffusion, Vincent Godard. À la réalisation, Bertrand Chaumeton. Terre d'Alliance, c'est une série proposée par Alexandre Hérault en partenariat avec la Fondation de l'Alliance Française.